Le regard de l'animal, j'y pense ce matin, pas seulement parce que quand je me suis levé, j'ai été confronté à celui de mon chien, j'y pense pour ces images d'ours blancs piégés sur la banquise ou de rongeurs recouverts de savon qui ne se lavent pas mais qui se débat. J'y pense aussi pour cette histoire de caméra dans les abattoirs, parce que ce qui se joue, c'est toujours une question de regard quand nos yeux se croisent avec ou sans le filtre de l'objectif et que se pose la question radicale de notre identité. C'est toujours le cas, sauf quand on se dérobe à cet échange de regard quand on veut pas voir, sans doute à cause de la terreur ou de la honte à laquelle on se soumet. Jacques Derrida, dans un livre publié après sa mort, interrogeait ce regard de la plus belle et la plus étrange des façons. Il écrivait dans ce texte qui s'intitule « L'animal que donc je suis ». Souvent je me demande qui je suis et qui je suis au moment où, surpris nu, en silence, par le regard d'un animal, par exemple les yeux d'un chat, j'ai du mal à surmonter une gêne, à poil devant un chat qui vous regarde sans bouger, juste pour voir, nu, devant le regard insistant de l'animal, un regard bienveillant ou sans pitié, étonné ou reconnaissant, un regard de voyant, de visionnaire ou d'aveugle extra-lucide. Il y avait un peu de tout ça ce matin, dans le regard de mon chien.
Boomerang, boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Quel regard mon invité d'aujourd'hui porte-t-il sur l'animal, lui qui signe la réalisation d'une œuvre à la gloire du meilleur ami de l'homme, Belle et Sébastien, dont il réalise le troisième et dernier volet des aventures. L'histoire, vous la connaissez, c'est celle d'un jeune héros téméraire qui tente de sauver sa belle et ses chiots des griffes d'un méchant super méchant. Et devinez qui s'est donné le rôle du méchant. Bonjour Clovis Cornillac.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Tout d'abord, qu'est-ce qui se joue pour vous dans le regard de l'animal, vous qui avez dû tourner avec des animaux?
Je pense que j'ai un rapport très étrange, mais je pense qu'on a un rapport. Vous venez de le dire dans votre texte là, au début de l'émission. Je trouve ça vachement intéressant et c'est une vraie question de se dire quand quelqu'un, par exemple, vous parle du rapport qu'il a avec son chien ou avec son chat. Autour, on est toujours un petit peu, on se dit oui, oh, c'est mignon, bien sûr, ton chien t'a compris, ton chat t'a compris. Alors qu'il se passe un truc que je trouve assez fort. Moi, j'ai eu beaucoup de chiens aussi dans ma vie. J'adore ça. Et en fait, il y a un moment, t'arrêtes de vouloir dire aux autres le rapport qui s'établit entre ton animal et toi, parce que où ça fait, on se dit, bah le gars projette des choses sur son animal, il en a rien à foutre, l'animal, il veut juste manger et des caresses. On sait bien quand on a des animaux que c'est pas ça, mais on est incapable de l'expliquer parce qu'il y a quelque chose qui transcende et qui est voilà. Et on va pas essayer. Avec la nature, c'est la même chose. Je trouve que avec la nature, quand on se balade, tu te balades en montagne, tu te balades à la mer, près de la mer et tout, dans les natures fortes. Je veux dire, la campagne, j'ai plus de mal, ça me fout un peu le bourdon, mais la nature.
Attention, vous parlez à un Auvergnat.
Oui, il y a la montagne. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a quelque chose de puissant qui fait que on sent qu'il y a une relation qui s'établit. Et c'est vrai qu'en faisant le film. C'était ça que je voulais raconter aussi entre Belle et Sébastien, pour le coup.
Par exemple, au début du film, lorsque Belle regarde le jeune héros pour le supplier d'aller dire au revoir à son père, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez?
Oui, alors c'est malheureusement sur un tournage, enfin malheureusement et heureusement, ce qui compte quand tu fais un film, c'est ce qui va rester, pas tellement la manière dont tu le fais, parce que en fait on triche beaucoup. Mmh. On est obligé, tu peux pas avoir une scène réelle qui se fabrique avec le chien sur le moment, il y a du monde autour, on est 150 sur le plateau. Tu as un dresseur à qui j'ai demandé qu'on travaille ensemble pour avoir des expressions particulières. Donc il n'y a pas cette espèce de magie du moment que j'espère on voit à l'image, mais nous on le fabrique un peu ce moment-là. Il n'est pas celui qu'on croit. Mais moi mon boulot de réalisateur, c'est qu'on y croit. C'est-à-dire je mets ça à l'image pour qu'on se dise ah oui ça m'évoque ça. Mais en vrai tu peux pas l'avoir sur le plateau parce que t'as quatre personnes qui crient autour du chien. Hey, look at me, stay, don't move. C'est ça.
Parce qu'ils sont anglais.
Ah oui, j'avais un gars extraordinaire qui s'appelle Andrew Simpson et qui est probablement le meilleur dresseur au monde aujourd'hui, un mec d'une douceur, c'est Kung Fu, tu vois, David Carradine dans Kung Fu. Une espèce de calme, il est posé et on a travaillé pendant 3 mois avant le début du tournage et je lui ai expliqué le personnage de Belle, comment je voulais la filmer.
Mais c'est intéressant, quel acteur est-ce que c'est un chien?
Alors déjà, il n'y en a pas un. Il y en a quatre pour en faire un. Oui. Donc, on va dire, il y en a un qui est acteur. C'est-à-dire qu'il est l'acteur de gros plan, on va dire le cabot, qui est celui avec lequel on a travaillé toutes les expressions, tout ce que je pouvais obtenir. Puis on a les acteurs physiques, on a vraiment les cascadeurs, qui sont ceux qui courent, qui sautent, qui est incapable de jouer, hein, de te procurer une, Et puis, on avait une femelle, la seule femelle, qui, elle, acceptait d'avoir des chiots autour d'elle, parce que les patous, c'est des chiens très grégaires, c'est des chiens qui font peur aux loups. Hein.
Mais ça vous a posé question, Clovis Cornillac, quand même, de faire tourner des animaux, parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident.
Non, c'est pas évident. C'est pas évident, mais étrangement, quand t'es mu par ton projet, que t'as une histoire à raconter, t'as le sentiment que rien peut t'arrêter. Il y aura des problèmes, mais ce qui est formidable, c'est qu'il y aura forcément la solution. Donc, t'avances toujours comme ça. J'ai toujours dit à toute l'équipe, j'ai dit, ça va être aventureux, ça va être compliqué, la neige, les chiens, les chiots, les enfants, la haute montagne. Mais en vrai, on a un truc à raconter. Donc, à partir de ce moment-là, voilà, tu dis, oui, là, il y a un souci, on n'a pas de neige, et ben on va monter plus haut.
En tout cas, moi, ce qui me frappe, c'est la manière, effectivement, dont l'apparition d'un chien ou d'un chiot sur un écran de cinéma suffit à émouvoir immédiatement. Vous en parliez un petit peu au début. Qu'est-ce qui émeut à ce point chez le chien?
Je sais pas. J'ai le sentiment que ce rapport dont on parlait, ce rapport secret, avec les animaux qu'on peut avoir, si on arrive à le capter un peu, à filmer des choses en tout cas qui nous ramènent à ça, forcément ça nous bouleverse parce que j'ai le sentiment qu'on reste quand même très animal quand on se dit bonjour les uns les autres, ou quand on tu sens, est-ce que la personne est sympa, est-ce qu'elle est dangereuse, est-ce qu'il y a quelque chose de on a gardé quand même cet instinct, voilà, on se sent.
Et rassurez-moi, le tournage est très cadré pour qu'il n'y ait aucune maltraitance envers les animaux.
Ah mais ça c'est mais les animaux sont mieux traités que nous sur un tournage, mais à juste titre, parce qu'ils n'ont pas demandé et ils n'ont pas pu signer de contrat, donc la moindre des choses c'est qu'on soit le plus tendre avec eux. Ça serait quand même dégueulasse de profiter d'animaux qui n'ont jamais dit moi je veux faire un film.
Vous savez pourquoi je vous pose la question? Parce que de maltraitance animale il en est question dans votre film. Votre personnage maltraite les animaux, torture les chiens, même si l'horreur est laissée dans le hors-champ. C'est un petit peu votre personnage, la Cruella des Alpes.
Le chalet de César, tu connais?
Ah ben, moi je peux vous emmener si vous voulez.
Ah ben, c'est pas de refus.
C'est un camion américain?
Ah non, c'est un Aftrak. Il appartenait à un colonel allemand.
Mon père, il leur a volé un avion.
Je l'ai pas volé, moi. Je l'ai gagné.
Gagné?
Avec ça. Oui. Vas-y, prends-les, ils vont pas te mordre. Hein. Je te propose un pari. Tu jettes un dé, si tu fais 1, 2 ou 3, je dois deviner ton prénom. Et si tu fais 4, 5 ou 6, c'est toi qui dois deviner le mien. Vas-y, qu'est-ce que tu risques? La chance du débutant. Bon, moi c'est Joseph et toi laisse-moi deviner. Tu t'appelles... Non, j'y arrive pas. Je donne ma langue au chat, Sébastien.
Alors, ce qui est intéressant, Clovis Cornillac, c'est qu'avant même que votre personnage n'ouvre la bouche, dans Belle et Sébastien, on sait que ce sera lui le méchant. Et c'est une bonne question. Qu'est-ce que c'est pour vous un méchant de cinéma? C'est autant au spectateur qu'à l'acteur ou au réalisateur que je m'adresse ici.
Je pense qu'il y a plusieurs natures de méchants. Là, dans Belle et Sébastien, je voulais que le méchant ait une fonction plus qu'un personnage. C'est-à-dire, ce qui m'intéressait, c'est vraiment l'idée du conte, c'est-à-dire le mal. Il a pas de psychologie. Il est très sincèrement, il est le mal incarné. Il a rien pour lui à part la méchanceté.
Rien ne le sauve.
Rien.
Effectivement.
Et il y aura pas de rédemption possible.
Pas même une enfance difficile. Non. Comme on a pu le voir.
Exactement. Je voulais absolument qu'on le positionne comme l'ogre dans Le Petit Poucet. C'est-à-dire que il est redoutable pour tous nos héros. Il est redoutable pour Sébastien, pour Belle, il est redoutable pour César, qui est un personnage joué par Checky Cario, le grand-père, qui va redevenir un héros. C'est-à-dire, je voulais vraiment rendre sexy cet homme qui a les épaules voûtées au départ et qui petit à petit redevient sexy, voire sexuel. C'est-à-dire, il y a quelque chose de fort dans ses trajectoires. De tous les personnages qui sont autour, il fallait une présence un peu terrible, que tu ne sais pas comment défier ça, tu ne sais pas comment faire, c'est le mal. Donc la seule chose que tu peux faire, c'est te positionner face au mal. Et je me dis, ils font des choix radicaux à certains moments que je trouve héroïques.
C'est qui l'archétype du méchant de cinéma pour vous, Clovis?
Je pense que on en a plusieurs, mais je pense que La Nuit du Chasseur a quelque chose de fabuleux. Mitchum, dans ce film-là, mais parce que le film est génial et que c'est un chef-d'œuvre, on sait pourquoi, parce qu'il mélange et la poésie et en même temps la cruauté la plus grande. C'est fabuleux. C'est le monde de l'enfance qui est...
Moi, je le dis quand même, mais c'est intéressant, tout le monde s'en fiche hein, de ce que je pense moi, mais c'est effectivement le capitaine Crochet pour moi, hein, qui a quand même une très mauvaise énergie.
Absolument.
Des blagues très douteuses et un crochet très métaphorique, Clovis. Il est très très flippant. En tout cas, votre méchant dans Belle et Sébastien, il a quelque chose, vous le disiez, du méchant du conte de fées. Vous citiez l'ogre. Qu'est-ce qui fait pour vous l'essence du conte de fées?
Je pense que ça me fait penser... C'est comme ça qu'on se fabrique. C'est-à-dire que c'est la première relation au monde quand on est enfant.
La dimension initiatique, en fait.
Exactement, c'est le parcours. Et ce qu'on essaye de faire avec Belle et Sébastien, c'est que ce garçon, qui est quand même un peu plus grand maintenant, va être confronté à une chose qui est terrible, c'est que sa carte du monde, elle va changer, parce qu'il va être confronté à découvrir que la loi n'est pas juste. Et moi, je me souviens, vers 8-9 ans, on m'a toujours expliqué, la justice, c'est ça, voilà ce qui est le droit, ce qu'il faut faire. Donc tu dis, c'est assez binaire, en fait. Il y a des choses dont j'ai le droit, parce que les grands savent.
Avec quel conte est-ce que vous avez grandi, précisément?
Plusieurs, mais ça, c'était pas par un conte. Ça m'est arrivé parce que la vie, j'ai vu un salopard être défendu par la justice. Bah, ta carte du monde, elle change, parce que c'est plus blanc et noir. C'est tout à coup, tu fais « Ah non, c'est pas aussi simple ».
Mais c'est quoi cette histoire, Clovis Cornillac?
C'était juste un truc, un gars, je sais plus, qui avait fait c'était pas des malversations, mais c'était truc de l'époque.
D'accord.
Du gars qui était accusé de quelque chose, qu'il avait vraiment détourné.
Aux infos.
Aux infos.
Oui.
Et finalement, on me dit, ce gars-là est protégé par la justice. Après, quand tu te dis, c'est pas possible, puisque tout le monde sait, vous dites, tout le monde sait qu'il a... c'est pas aussi simple. C'est-à-dire, la justice, de temps en temps, on peut la manipuler.
Disons, le monde actuel doit vous poser problème.
Non, je pense que nous, on a pris l'habitude de ça. Et quand t'as des enfants, tu dis, tu regardes tes gamins, tu vas leur dire quoi? Tu leur dis, le monde est binaire, ou tu leur dis, écoute, d'abord c'est binaire, et puis ensuite je te dirai, tu verras, il y a d'autres voies, donc ça va être plus complexe. Mais j'aimais bien cette idée que Sébastien fasse un choix radical d'enfant. C'était à partir du moment où il dit, vous défendez les salauds, moi je sauve le chien. Moi, mon problème, il n'est pas de me dire vous avez raison ou tort, c'est je prends le chien, je prends les chiots et je me casse pour sauver, parce que ça a du sens. Et pour les autres, ils disent, la loi c'est la loi, je ne peux pas changer la loi. Le maire qui dit ça. Donc ils vont tous avoir une progression à travers l'histoire, ils vont pas finir pareil qu'ils ont commencé. Et c'est ça qui m'intéressait, et dans l'idée du conte, c'est que je pense qu'au début du conte, on n'est pas tout à fait pareil qu'à la fin.
Celle qui n'a aucune progression dans cette émission, sans doute la connaissez-vous, Clovis, c'est la culture et son actualité terrifiante, qu'elle est même parfois interdite aux enfants. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 6 février? Guerre des étoiles, le retour. Hier, l'édition 2018 du fameux guide Michelin a révélé ses étoilés de l'année. Résultat, deux nouvelles tables accèdent au Graal de la troisième étoile. La maison des bois du chef à chapeau Marc Vera en Haute-Savoie et l'hôtel du Castellet de Christophe Baquier dans le Var. Il y a désormais 28 établissements en 3 étoiles en France, en prenant compte du retrait inédit et sur demande du resto Le Suquet de Sébastien Bras en septembre. Que la fin soit avec nous.
Ça, c'est de toute beauté.
La beauté des Hollandais au Petit Palais. Le musée parisien inaugure aujourd'hui les Hollandais à Paris, une expo pour célébrer les échanges artistiques, esthétiques, amicaux entre les maîtres de la peinture hollandaise et ceux d'ici. En partenariat avec le musée Van Gogh d'Amsterdam, l'événement propose de découvrir près de 115 œuvres de Van Gogh, Van Dongen, Mondrian pour les uns, Cézanne, Monet ou Picasso pour les autres. Het is mooi, comme on dit.
Oh, Georges, quel poète, vous me surprenez. On ne m'a jamais parlé comme ça.
Un peu de poésie dans ce monde de duc. Le duc de Cambridge, aka le prince William, vient de lancer un grand concours de poésie à l'occasion de l'anniversaire des 100 ans d'armistice de la Première Guerre mondiale. L'idée, trouver une nouvelle plume pour célébrer la mémoire, le courage, le dévouement des soldats du royaume, les contraindre à avoir plus de 17 ans et proposer un texte de moins de 25 lignes avant le 9 avril prochain. À vos plumes, les genoux.
Cambridge, en fleurine comme Don't Sleep. Si, lève ton string ou ton slip. Lève les mains, fais toi-même ton clip. Comme la petite dans l'exorciste, crie!
FF, c'est l'histoire sans fin des gars sincères. La preuve, Pone, le DJ du mythique groupe de rap marseillais Funky Family, vient de mettre en ligne un morceau totalement inédit, titré Cri et daté des sessions d'enregistrement de l'album Art de Rue sorti en 2001. Cette pépite à l'ancienne réunit tous les gars sincères de la FF de Mars, de Sat à Don Shoa en passant par Laura Luciano. Et ça flaire bon l'âge d'or, alors on monte le son bien fort. Clovis Cornillac, invité de Boomerang ce matin pour son deuxième film en tant que réalisateur de cinéma, Belle et Sébastien 3, adapté de la série écrite par Cécile Aubry au milieu des années 60. Alors à une époque, vous disiez que vous n'envisagiez pas du tout de réaliser un film. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ?
Je pense qu'en fait, faut être sincère. Et au bout d'un moment, j'ai eu la chance d'être extrêmement gâté comme acteur. Beaucoup de rôles, beaucoup d'aventures. De temps en temps, avec le temps...
On se lasse.
Non, j'ai eu des déceptions. Ah. Alors, des déceptions pas liées finalement à, au projet lui-même, mais de me rendre compte qu'il m'est arrivé souvent de me retrouver sur un pas de projet. C'est-à-dire, en fait, un film de plus. Mmh. Et je croyais qu'il y avait un projet. Mmh. Et puis, à l'arrivée, tu dis, quand même, il n'y a pas trop d'idées, quoi. Et c'est un jouet magnifique de pouvoir faire un film. Et puis, tu as un petit rat qui, dans la tête qui commence à, tu sais, à grignoter. Tu fais, oulala, pas d'aigreur, jamais. Je redoute ça absolument. Et je me dis, au lieu de commencer à avoir ce petit rat, essaye de faire un film, de te confronter réellement à raconter une histoire et tu verras, peut-être tu seras beaucoup plus cool après parce que tu auras traversé cette affaire.
Et quels aspects du cinéma, de la fabrication d'un film, est-ce que vous avez découvert dès le travail sur Un peu beaucoup aveuglément, votre premier long métrage ?
Mais tout. C'est-à-dire que c'est cette fameuse chose dont je parle aussi dans Belle et Sébastien, mais c'est l'idée de la deuxième vie. C'est-à-dire que je suis tombé amoureux d'un nouveau métier, je ne m'y attendais pas, je pensais vivre une expérience. C'est comme si j'avais rencontré une jeune femme et tu fais « Oh bon, on va se faire un bisou » et tu fais « Mais non, c'est la femme de ma vie.
Ah, » J'ai cru que vous alliez dire d'autres choses.
Non, ouais. Et en fait, ce qui s'est passé... c'est que tout me passionne dans la réalisation, du début à la fin. Il n'y a qu'une chose qui n'est pas très rigolote, c'est les montages financiers, parce que vraiment, franchement, c'est pas très sexy et ça m'intéresse assez peu. Mais en dehors de ça, que ce soit la préparation, que ce soit la réalisation, que ce soit la post-production, que ce soit accompagner le film jusqu'au bout, tout est énorme. J'invente mon monde, c'est extraordinaire.
Et vous dites que c'est la première fois que vous vous êtes senti artiste ?
Mais parce que c'est vrai. Moi, j'étais artisan d'art, je le suis encore quand je travaille pour les autres, et je trouve ça très noble. C'est un truc extraordinaire.
Le comédien n'est jamais un artiste, pour vous ?
Je sais qu'il y en a plein qui vont pas être contents en entendant ça, mais c'est-à-dire que ça a toujours été ma conception. Alors après, je pense qu'un artisan d'art est un artiste, mais je pense pas que de me définir comme acteur artiste. Je pense qu'on est indispensable au travail d'un film, d'une pièce de théâtre. Pas d'acteur, il n'y en a pas.
Mais est-ce qu'on n'est pas aussi un peu artisan d'art quand on se confronte à un projet, Clovis Cornillac, comme Belle et Sébastien, qui est devenu une franchise ?
En fait, j'ai la naïveté de penser que non. C'est-à-dire, la manière dont je me suis emparé du film, à aucun moment, je me suis dit, tiens, attention, t'es un homme de franchise, il faut que tu respectes ça et ça.
Mais il y a quand même des contraintes de... On peut pas faire ce qu'on veut aussi.
Bien sûr que oui.
Et totalement.
Mais totalement. Et la seule chose qui était... Et en fait, où je pense qu'il y a un vrai lien avec le vrai Belle et Sébastien, la série de 65, c'est que je pense que... on est absolument sincère dans la manière de traiter le sujet.
Vous auriez pu faire en sorte que Belle mord le méchant ou mord l'enfant même ?
Tout m'était possible. Après, ça n'avait pas de sens pour moi.
Et pourquoi, si l'enfant a été méchant, Clovis ?
Parce que c'est pas l'histoire d'un
enfant. Si c'est de la légitime défense.
Non, mais bien sûr. Non, mais par exemple, c'est typiquement, moi, ce que j'aimais beaucoup, par exemple, quand j'ai lu, c'est que ça m'a vraiment fait penser à Jack London. Oui. Et ce qui m'intéressait là-dedans, c'est pas tellement un rapport, par exemple, tordu, en disant, tiens, je vais péter cette idée que Sébastien est un chouette gamin et que cette chienne, en fait, serait folle. Bon, après, c'est autre chose, c'est presque parodique. Donc, si des gens, un jour, veulent faire une parodie de Belle et Sébastien, il y a matière. Mais c'était pas mon propos. Moi, c'était vraiment du premier degré. C'est ça que je voulais raconter. Je voulais rentrer dans cette littérature-là, dans cette espèce d'élan, comme ça, du souffle aventureux, qui puisse aussi permettre à... Je disais tout à l'heure, j'ai 3 enfants. Je suis allé voir pas mal de films pour mes enfants quand ils étaient petits. Je me suis ennuyé menu. Et je me suis dit, mais pourquoi ça ? Pourquoi on peut pas partager un truc en commun, multigénérationnel et tout ça, qui nous ferait des échos aux uns et aux autres, à différents endroits, quoi.
À propos de premier degré, de multigénérationnel, on va en reparler évidemment de cinéma, juste après une chanson ô combien canine, Mirza, Nino Ferrer. Vous êtes sur France Inter avec Clovis Cornillac. Vous écoutez Boomerang.
Belle idée.
Vous avez pas vu Mirza ? La 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 la. Vous avez pas vu Mirza ? La 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 la. j'avais pas vu Mirza. Oh là 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 là. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Sale bête, va. Veux-tu venir ici? Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. C'est bien la dernière fois que je te cherche comme ça. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Oh, ah oui, te voilà. Veux-tu venir ici? Oh, et ne bouge pas. Veux-tu venir ici?
Oh, Boomerang sur France Inter.
En vrai, il n'est pas tant qu'un courson, ou à la rigueur qu'Alain Ronron avec sa grâce de papa ours, à la fois tendre et grognon, barbe bûcheronne de trois jours, cheveux coquets, regard de miel, carrure rassurante, de berger, d'apiculteur ou de chef cuistot. On s'imagine volontiers partager avec lui une raclette au coin du feu, partir en rando au fin fond de la pampa ou au bord d'un traîneau, construire des toilettes sèches dans le désert, chacun son délire, avec sa petite veste bien cintrée, bleue ce matin, Clovis Cornillac, invité de Boomerang, pour Belle et Sébastien. Sébastien III, où il coiffe, on le disait, la double casquette d'acteur et de réalisateur. L'histoire du petit Sébastien qui cherche à sauver sa chienne et ses chiots des griffes d'un horrible fossoyeur. Un film qui s'adresse à un public très large, à des adultes et à des enfants. Comment on fait pour trouver le ton juste pour s'adresser aux enfants, Clovis?
Je pense qu'il ne faut pas les prendre pour des enfants. C'est-à-dire que moi, si je fais appel à mes souvenirs, je détestais les gamins qu'on me prenne pour un gamin. Il n'y a rien de pire. T'as l'impression qu'on te met une main sur la tête pour que tu grandisses pas.
Par exemple?
Bah, l'idée du lénifiant, du gnangnan, l'idée justement qu'un enfant, ah, il peut pas, si jamais on lui raconte une histoire qui est un peu forte, oh là là, ça va le... Ah, franchement, qu'est-ce qu'on fait? Dès que t'es gamin, t'essayes de voir les trucs des grands. Et pourquoi? Parce que tu veux grandir. Donc j'avais pas envie de faire un film qui soit un film pour faire « Alors mon chouchou, ça va ?»
Vous le faites bien, cela dit.
Ouais, j'adore.
Là, tout de suite, j'ai envie de le voir. Ouais. Mais bah, alors génial. Justement, parler aux enfants comme à des grands, ça passe par quoi concrètement?
Par une forme de sincérité. C'est-à-dire, je crois que j'ai une vraie part d'enfance et je crois pas que je m'en... Enfin, je crois qu'elle est toujours là. Donc, si dans ton propos t'es sincère et que l'idée elle est jamais tordue, c'est-à-dire tu racontes quelque chose de plein, et ben il n'y a pas de raison qu'un enfant il ne le comprenne pas. Alors tout dépend du sujet, j'irai pas effectivement emmener mes enfants voir un film pour adultes, oui. On va dire où il y aurait des scènes ou une forme de vulgarité ou de quelque chose qui pourrait être choquant dans l'éducation qu'on fait de nos enfants, mais en revanche une histoire forte, une histoire pleine, alors dans ces cas-là je me pose pas la question, j'ai une confiance absolue dans les enfants.
On retrouve cette idée du conte dont on parlait tout à l'heure qui par le détour dit des choses terribles.
Ouais, mais c'est assez frontal, je veux dire, on parlait du petit Pousset, le petit Pousset, je veux dire, il égorge quand même des enfants pour les manger, quoi. Et quand tu changes les couronnes sur les têtes, bah, il va égorger ses filles. Tu fais, mais c'est d'une violence inouïe. Pourtant, on le raconte aux tout petits parce qu'ils ont la capacité de l'entendre.
Quand vous étiez petit, vous étiez qui dans ces contes, dans le petit Pousset, par exemple?
Oh, je devais être le petit Pousset.
Vous étiez pas l'ogre?
Non, j'ai jamais. Je pense être quelqu'un de très bienveillant. En vrai, je suis quelqu'un de gentil. Alors, c'est un peu désuet, un peu ridicule, mais en même temps, on se porte pas mal dans cette idée-là. Enfin, je sais pas. j'ai pas le sentiment d'être quelqu'un qui va chercher. Je vois pas le plaisir, par exemple, qu'on pourrait avoir à écraser les autres. Je me dis comment on a pu mettre ça en valeur. C'est-à-dire quel plaisir tu prends à te dire, ah, je suis le premier, je les ai tous écrasés. Je me dis, tiens, il y a des gens qui bouffent pas à côté de toi. Franchement, ça rend pas heureux. Enfin, c'est pas quelque chose. Je suis pas satisfait d'être un anti alors que d'autres en chient tous les jours. Je n'ai aucun plaisir à ça, mais vraiment aucun. Et de me dire qu'on a mis ça comme une sorte de règle, comme ça, qui s'est établie tranquillement, je trouve ça fou. Je trouve ça d'une bêtise sans. Je trouve ça fou.
C'est-à-dire, Clovis Cornillac, que les adultes sont décevants.
Je crois pas. Moi, je suis un pur optimiste. Je pense simplement que si on raisonne en termes d'humanité, j'ai le sentiment que l'humanité en est encore au béaba. On est encore à quatre pattes. Donc, quand tu vois ton gamin, quand il est à quatre pattes, il met les doigts dans la prise. On est encore à cet âge-là. Il faut être patient. C'est pas parce que on a des civilisations un peu construites depuis 8000 ans qu'on a compris ce qu'était l'humanité. Manifestement, on n'a pas compris. C'est pas grave. Faut juste, voilà, ce qui est terrible, c'est que ça fait des dégâts jusqu'à ce qu'on comprenne petit à petit. On n'est pas mieux que les autres, nous. Moi, je suis pas quelqu'un de très intelligent. Et pourtant, je sais que faire du bien aux autres est mieux. Pourquoi c'est pas une règle absolue? Parce que je pense qu'on est encore, voilà, on est balbutiant.
Le cinéma, ça rend meilleur?
Je sais pas si ça rend meilleur. Mais quand t'aimes faire quelque chose, moi, c'est le cinéma. Comme ça me fait du bien, j'ai l'impression que ça me rend meilleur.
Vous parlez de vous, là? Vous parlez du monde qui devient meilleur grâce au cinéma?
Oh non, je dirais pas jusque-là, ça j'aurais du mal. Mais je pense que la culture en général, forcément, est censée ouvrir les esprits. Donc, en quoi ça pourrait être néfaste, je crois pas. Tant qu'elle n'est pas à propagande, tout va bien.
C'est justement un texte sur le bon que vous avez choisi de nous lire ce matin. Un texte tiré du best-seller de Frédéric Lenoir, Le miracle Spinoza, qui est paru en novembre dernier. Idéal pour conclure cette matinée, vous nous le lisez?
Ça marche, on essaye. On désire une chose parce qu'elle est bonne. Le bien aimante notre désir. Si je désire pratiquer la justice, c'est parce qu'elle est bonne en soi. Si je désire manger du chocolat, c'est parce que c'est bon. Or Spinoza nous dit exactement l'inverse. Nous ne désirons aucune chose parce que nous jugeons qu'elle est bonne, mais au contraire, nous appelons bon ce que nous désirons. Quelle révolution du regard! Ce n'est pas parce que la justice est bonne en soi que je la désire, nous dit-il, mais c'est parce que j'ai un désir de justice que je l'estime bonne. Et si j'ai envie de manger du chocolat, ce n'est pas parce que le chocolat est bon. Certaines personnes n'aiment pas le chocolat. Mais c'est parce que j'en ai le désir que je dis que c'est bon. Spinoza rapporte le bien à nos goûts et à nos désirs subjectifs. Une personne qui a le désir de Dieu affirmera que Dieu est bon. À l'inverse, une personne qui n'a aucun désir de Dieu n'en pensera rien et ne pourra souscrire à une telle affirmation. L'amateur de musique classique sera bouleversé et trouvera sublime le Requiem de Mozart ou les variations Goldberg, de Bach. En revanche, celui qui n'aime que le heavy metal n'y entendra rien de beau ou de bon. C'est le désir qui nous fait apprécier qu'une chose est bonne et non l'inverse. Voilà de quoi relativiser toute la morale traditionnelle. J'adore ce gars.
Vous désiriez la relativiser ce matin, la morale traditionnelle, Clovis Cornillac?
Ouais, je pense qu'il faut tout relativiser, toujours. Et là, pour le coup, même si je ne suis pas un astrophysicien ou un physicien, Einstein a tout dit.
Le miracle Spinoza de Frédéric Lenoir, lu par Clovis Cornillac, c'est dans Boomerang, évidemment. Merci infiniment d'être venu faire un tour dans cette émission Belle et Sébastien 3, avec Félix Bossuet, Tchéky Cario et vous-même, notamment sur la semaine prochaine, un film familial avec de la neige, avec des méchants, avec des gros chiens doux et une bonne dose d'adrénaline. C'est tout de suite, c'est bientôt, tout de suite, ce sont les médias. Sonia De Villers, juste après ça.
I can stand. Upon your chest, your arms are folded, with the bottle in your hand.
Smile, Duran Jones and the Indications sur France Inter ce lundi matin, ce mardi matin, mardi ou lundi, je sais plus moi.